il est très connu, si vous voulez, du monde entier, parce qu'il a, étant catéchumène, partagé son manteau avec un pauvre qui n'avait pas de quoi manger. Et donc, bien des endroits, on le représente en train de couper son manteau, paraît-il dans le sens longitudinal, pour en donner la moitié. Et le Christ lui est apparu dans la nuit et lui a dit, Martin, encore catéchumène, a partagé avec le Christ son manteau. Et donc c'est le Christ lui-même qu'il a assimilé au Christ. Et effectivement, si vous voulez, l'intérêt des saints, c'est qu'ils donnent leur vie. Quand ils rencontrent le Christ, ils ont le sentiment que le Christ a donné sa vie pour nous, et donc en échange, ils donnent leur vie au Christ. Et c'est ça l'intérêt de vivre les vies de saints, parce qu'ils nous rapportent comment ils ont mis à exécution le projet dont parlait tout à l'heure Père Marc-Antoine. Voilà. Et donc Saint-Martin est ensuite devenu évêque en Gaule, c'est-à-dire la France actuelle. Et en France, il y a 3600 paroisses qui lui sont consacrées et je ne sais pas combien de monastères. Et la France, depuis Clovis, l'a comme son saint protecteur.
Combien de Français portent ce nom ?
Oui, et alors beaucoup de Français portent ce nom de famille, c'est le nom de famille le plus répandu pour une raison très simple, c'est que quand l'armée de Napoléon a circulé dans les campagnes gauloises, plein de petits-enfants sont nés, et l'État, si vous voulez, en fait, à cette époque-là, l'État a autorisé les enfants qui n'avaient pas de nom de famille à porter le nom de famille de Martin, parce que Martin était miséricordieux. Et donc, c'est pour ça que l'un des noms les plus répandus en France, comme nom de famille, est celui de Martin. Alors, en Russie, par exemple, c'est Popov, parce que Popov, ça veut dire du prêtre. En Espagne, ça va être Espinosa, parce qu'on les amenait sur le porche de l'église et on les présentait. Alors, nous avons partout, dans tous les pays, des noms qui sont plus courants, parce qu'en fait, ce sont ceux qui n'avaient pas de papa. Voilà. Alors, le deuxième livre, si vous voulez, c'est Saint-Serge de Radonège. En fait, il avait été édité en gros et on m'a demandé de le reprendre, donc je l'ai repris dans une édition plus petite. Saint-Serge est pour les Russes le saint, si vous voulez, par excellence, le plus pur. C'est-à-dire, c'est lui qui est à la racine de toute la sainteté russe. Il avait déjà été en contact avec l'hésychasme, et l'hésychasme est arrivé en Russie par l'intermédiaire de Saint-Serge. Et il a fait au niveau même du pays beaucoup, parce qu'il a permis à la Russie d'adopter la royauté, si vous voulez, le système de royauté de père en fils, alors que jusqu'à lui, c'était la division perpétuelle, parce qu'on allait vers les frères. Donc le pays se divisait de plus en plus, et comme lui, vous savez tous que Dieu fait l'unité, il a recherché à faire l'unité de la Russie au travers de... Et c'est Saint-Serge donc qui est le représentant monastique et qui a joué un rôle très important dans le pays de la Russie. Voilà le deuxième. Le troisième, je suis rapide parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le troisième, c'est une petite sainte que j'aime beaucoup qui s'appelle la Staritsa, c'est-à-dire l'ancienne Matrona. Et Sainte Matrona, qui est une bienheureuse, a été le successeur de Saint Jean de Kronstadt. Et elle est très attachante parce qu'elle est née en fait sans yeux. Sa mère pensait l'abandonner, elle était la quatrième fille d'une famille très pauvre. Et sa mère, qui était très pieuse, a fait un songe et elle a vu une colombe qui n'avait pas d'orbite, qui était posée sur sa main. Et elle a compris qu'elle ne devait pas abandonner sa petite fille, qu'elle devait la garder. Et sa petite fille, qui était une bouche en trop à nourrir, est devenue la principale nourricière de sa famille, puisque dès qu'elle avait 4 ans, 5 ans, déjà, des personnes venaient lui demander conseil, parce qu'elle voyait tout sans yeux, elle savait tout sans avoir jamais rien fait. Et elle a été en fait un soutien très important pendant toute la période de la Russie communiste. Elle-même était sans papier et elle vivait à Moscou. Et comme elle avait le don de clairvoyance, dès que quelqu'un allait, elle savait qu'elle allait être arrêtée, elle changeait tout simplement de domicile. Et elle a aidé des centaines et des centaines de personnes pendant la période communiste. Et en fait, elle est récente parce que son corps a été... Elle est née en 1885, mais elle est morte donc vers 1950. Mais en fait, elle n'est devenue sainte aux yeux de l'Église que depuis 1998, ce qui fait que c'est extrêmement récent. Et c'est vrai que c'est un ouvrage extrêmement attachant parce qu'il y a beaucoup de témoignages et qui montrent sa sainteté, c'est-à-dire que Dieu est tellement près d'elle qu'on ne sait plus, on a l'impression que quand elle parle, en fait Dieu lui laisse la parole. On ne sait plus si c'est parce qu'elle dit que Dieu fait ou si c'est parce qu'elle fait que Dieu fait. Tellement elle est identifiée au Christ. Et le quatrième, donc ce sont les icônes miraculeuses de Saint Nicolas. Il y aura deux ouvrages, il y en aura un qui sera plus beau, qui sera sur la vie de Saint Nicolas. Et celui-là, ce sont les icônes miraculeuses, c'est-à-dire en Russie, nous avons des icônes qui ont des histoires, qui ont, pendant toute la période tatare, du joug pendant lequel la Russie n'était pas libre, ont aidé les Russes à vaincre les Tatars. Et ce sont des icônes, elles sont intéressantes parce qu'on s'aperçoit, on dirait que quand on regarde une icône de Saint-Nicolas, c'est toujours la même chose. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des centaines d'icônes de Saint-Nicolas. Par exemple, Alina m'a demandé de lui trouver quelques icônes. Et en fait, il y en a tellement qu'on s'aperçoit que Saint-Nicolas n'a pas qu'une seule représentation iconographique. Et donc, dans cet ouvrage, vous trouverez les histoires de ces icônes et de leurs miracles en Russie, dans la période, donc avant la période communiste. Voilà. Ils sont chacun à 6 euros et ils ont paru aux éditions bénédictines. Bon, j'ai quelques exemplaires, c'est-à-dire s'il y en a qui seraient intéressés, peut-être après la conférence de Père Marc-Antoine, vous pouvez les prendre. Voilà. Merci Père d'avoir donné une réponse.
Bah, il paraît qu'il faut parler fort. Et ça, si quelqu'un n'entend pas, vous nous dites. Donc, on a un petit moment ensemble. Je vous admire beaucoup parce que en français, c'est un proverbe pour les Français seulement. Hein, un proverbe français qui dit. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Et donc, je trouve courageux de votre part de rester encore un petit peu. Et sur ce sujet, j'avais parlé avec votre prêtre, Père Roger, pour voir qu'est-ce qui serait intéressant. Et Père Roger m'a demandé de dire quelques mots sur la place du corps humain dans l'Église et dans la vie chrétienne. Mais comme c'est un sujet immense, il faudrait rester toute l'année, parler tous les soirs pendant 5 heures pour arriver à avancer dans le sujet. Donc c'est simplement une petite introduction comme ça, quelques minutes, peut-être vous avez vous-même des questions, des introductions. Donc je pense à ce qui est... D'abord, je peux vous signaler quand même... Il y a un livre pour ceux qui peuvent étudier, qui ont du temps, etc. Un livre qui est sorti de notre collègue et professeur Jean-Claude Larchet, qui s'appelle Théologie du corps. Et c'est quand même assez complet. C'est sorti cette année. Il coûte 13 euros. C'est pas encore trop cher. On peut acheter ça. Et dans lequel il expose à peu près de manière complète la vision chrétienne du corps, telle vision qui s'est conservée dans notre Église orthodoxe. Bon, je parle forcément à partir de ce que nous vivons, nous, dans notre Église. Alors, je crois que ce qui est important, d'abord, c'est de situer cette question qui a été présentée, la situer dans le temps liturgique. Vous savez, il faut toujours, enfin, je pense qu'il faut mieux toujours... Quand on a une réflexion théologique, ou une catéchèse, une conférence, il faut le faire dans le cadre du temps liturgique dans lequel on est. Pourquoi ? Parce que dans ce temps liturgique dans lequel on est, il y a toujours une grâce particulière que Dieu donne, il y a une espèce d'opportunité spirituelle, il y a toujours un événement. Donc les sujets, il faut les prendre dans le contexte. Or, le sujet du corps, est-ce que je parle assez fort ? Le sujet du corps, il est tout à fait bien placé dans cette période de carême. Parce que justement, le temps de carême est un temps pour la revalorisation ou la valorisation du corps, la sanctification du corps, le salut du corps, et par toutes sortes d'éléments que je peux donner déjà en introduction, par exemple l'attention que nous portons à notre alimentation, la façon dont nous participons gestuellement beaucoup plus pendant le carême, nous faisons des prosternations, etc. Donc on voit bien que le corps participe davantage. Donc ne serait-ce que ces deux éléments-là, on voit bien que le corps a toute sa place et qu'il est là pour participer à la prière et pour être sauvé. Et finalement, le terme du carême, quand même, c'est la résurrection du corps. Vous voyez, hein, c'est ça qui est. Alors ça, c'est tous les saints pères de l'Église ont insisté beaucoup là-dessus, ont montré qu'en fait l'originalité de la foi chrétienne, de la voie chrétienne, et l'originalité de l'Église, donc, parmi toutes les formes d'expérience spirituelle sur Terre, c'est justement la valorisation du corps. C'est ce qui fait l'originalité du christianisme. Alors c'est très intéressant de le dire, ça, parce que quelquefois on pense le contraire. Hein. Il y a des personnes, surtout dans certains pays prétendus chrétiens, il s'est développé une conception pseudo-chrétienne qui est au fond une conception de mépris du corps, comme si la vie spirituelle consistait à s'éloigner du corps, à se désincarner en quelque sorte. Alors ceci n'est pas du tout le christianisme, hein. C'est vraiment un contresens important, mais dans certains pays, surtout en Europe occidentale, je pense, ce contresens a existé et a fait quand même pas mal de dégâts. Par exemple, ça a entraîné un pessimisme à l'égard de la vie corporelle, un pessimisme à l'égard de la sexualité et une incompréhension aussi de la prière liturgique. Hein, c'est d'incapacité de trouver pour le corps sa place dans la vie spirituelle, dans la vie religieuse. On va parler que de toute notre expérience à nous. Donc, ce qu'il faut vraiment arriver à mettre en premier plan, c'est l'idée que l'Église valorise le corps et que ça fait partie de notre expérience de carême. Donc, un des enjeux du carême, c'est de redécouvrir justement cela. C'est de passer d'une vie qui est souvent un peu schizophrénique, avec une activité corporelle par ici, une activité spirituelle par là, une activité intellectuelle par là. Enfin, nous sommes un peu décomposés quelquefois dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, et la vie du carême, c'est pour recomposer l'être humain. Dire, tiens, on peut faire une expérience de vie qui est une expérience synthétique, d'unité. Faire excusez-moi pour les gros mots, une unité anthropologique, c'est pas grave, hein, le mot est gros comme ça, mais c'est pas méchant, ça mord pas. Donc, une unité anthropologique, parce que l'être humain fait un tout, fait une unité, il n'est pas coupé en morceaux avec l'âme, le corps, l'esprit, et ça n'a pas de réalité, en fait, mais que quelquefois c'est comme ça qu'on vit, mais ça c'est notre pathologie, hein, nous vivons souvent dans un état au fond pathologique, c'est de décomposition de notre être humain. Et alors la vraie vie, la vie de santé, de sainteté, c'est une vie d'unité. C'est l'unité du corps et de l'âme et de tous les composés de notre être, étant entendu que c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui scelle cette unité de l'être humain. Au bout du compte, hein, c'est vraiment la grande respiration du Saint-Esprit, donc en fait le mystère de la Pentecôte qui accomplit l'unité de l'être humain et particulièrement la sanctification totale de son corps. Bon. Alors, il y a donc deux questions qui se posent, après ça je vous laisse la parole peut-être, il y a deux questions qui se posent, c'est d'une part en fait notre évidence quotidienne n'est pas celle-là du tout. Quotidiennement, nous rencontrons des personnes qui corporellement sont tout à fait dégradées, très abîmées. Moi, je vais beaucoup à l'hôpital, je vais voir ma mère, par exemple, actuellement. Ce que je constate, c'est plutôt une dégradation corporelle, vous voyez, une misère corporelle. Le corps, c'est vraiment l'expression de l'être humain souvent le plus abîmé, l'homme accidenté. Vous voyez, il y a dans l'Évangile cet homme qui a été attaqué par des brigands. Dans l'Évangile, qui est sur le bord de la route, il est complètement blessé. C'est souvent ça, malheureusement, notre vie corporelle, souvent, elle n'est pas glorieuse du tout. Elle n'est pas glorieuse du tout. On a quand même des problèmes de santé, de maladie, de vieillissement, de mort, de douleur, ou bien on est mal dans son corps aussi, il y a de difficultés à vivre quand même. Donc c'est souvent ça qu'on rencontre. Donc finalement, l'enseignement de l'Église n'a pas l'air, d'une certaine façon, il ne colle pas avec l'expérience qu'on a tous les jours. Mais c'est ce qui est quand même ce qui est proposé, vous voyez. Il faut arriver à recevoir cet enseignement ecclésial, à le vivre et effectivement à modifier quand même quelque chose de notre vie en profondeur. La base de ça, c'est quand même la foi. Quand même la foi. C'est que notre foi, c'est que Dieu, le Christ, le Verbe, s'est fait homme. Et quand on dit s'est fait homme, on dit il s'est fait chair. Et ça ne veut pas dire qu'il est entré dans un corps comme dans une boîte, comme une sorte de récipient, puis Dieu est entré dedans. Non, c'est bien qu'il s'est fait corps, il s'est corporifié, je ne sais pas comment dire, vous voyez. En grec, c'est plus facile de dire les mots en grec, ensarkosis en grec, c'est très très fort, c'est carnification, corporéification. Donc, c'est-à-dire que Dieu a sanctifié le corps en se faisant corps, vous voyez. Et ce qu'il a fait là, c'est définitif. Parce que quand après la résurrection, il a été glorifié dans le mystère de l'ascension, il ne s'est pas désincorporé, jamais de la vie. Donc l'incorporation, la corporéité du Christ, elle est définitive. Ça veut dire que le corps humain est définitivement sanctifié, sauvé et glorifié. Ça, c'est le caractère objectif de la foi. On part de ça. On croit ça, oui. Ensuite, le Christ, nous voyons dans l'Évangile aussi, a transfiguré le corps. Quand il est monté sur la montagne du Tabor, les apôtres Pierre, Jacques et Jean l'ont vu, et ils ne l'ont pas vu comme un pur esprit, une espèce de fantôme, comme ça, vous voyez. Non, ils ont vu un homme transfiguré, et un homme corporel transfiguré. Ils ont vu la lumière divine qui traversait son corps. Il a vu la translucidité du corps. C'est une chose extraordinaire. C'est-à-dire que le corps, non seulement est sauvé par Dieu, parce que Dieu l'assume et se corporéifie, mais en plus, il devient lumière. Et ça, on le voit dans la vie des saints. On cite toujours les mêmes exemples, un petit peu, bien sûr, de Saint Séraphin de Sarov. Mais il n'y a pas que Saint Séraphin de Sarov. Des exemples beaucoup plus anciens. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, il y a un exemple du saint et premier martyr, l'archidiacre Étienne. Et quand les gens le voyaient, il avait son visage qui était lumineux absolument, vous voyez. Donc là, le phénomène de transfiguration de l'être humain, de transfiguration corporelle, vous voyez, c'est un phénomène qui est typique de l'expérience chrétienne. Et on le retrouve à d'autres exemples. Il y a d'autres exemples que ceci, je pense l'exemple de Saint-Étienne, mais l'exemple dans la vie de Saint-Antoine, parce que j'ai appris, je n'avais pas compris, je l'entends mal. Saint-Antoine est aussi le patron de cette église. C'est une très bonne idée, parce que c'est quelqu'un de très bien, Saint-Antoine. C'est un homme très intelligent, très tenté par l'orgueil. C'est un homme très sympathique. Vous lisez sa vie, moi je l'aime beaucoup. Et Saint-Athanase, qui raconte sa vie, dit qu'à la fin de son existence, déjà au début quand même, mais tout à la fin de son existence, il était magnifique, vous voyez. C'était un vieillard, il avait 101, 102, 103 ans, quand même assez avancé, et il était magnifique. Vous voyez, c'était un caloyeron, comme disent les Grecs, comme on dit un beau vieillard. Oui, un beau vieillard. Les Grecs, nos amis grecs, ils sont des bons témoins de l'orthodoxie quand même. Ils ont des mots comme ça qui sont typiques. Pour un vieillard, pour un saint vieillard, un homme réalisé dans la vie en Christ, on dit un kalogeron, c'est-à-dire un beau vieillard. Vous savez ça? Kalugar. Kalugar en roumain, ça vient de ce mot-là. Ça veut dire metrinfrumos. Metrinfrumos, de fait. Étymologique. Étymologique, il semble metrinfrumos. De frumusetza de la Dumnezeu, de la Sfântul Duh, frumusetza de frumicească. Așa sunt frumos bătrâni creștini. Donc cette beauté, mais la beauté de la Mère de Dieu, on ne se rend pas compte de ça, vous voyez. On ne passe pas assez de temps à contempler la beauté de la Mère de Dieu. Et on le dit dans l'Acatiste, vous aimez l'Acatiste, la Mère de Dieu les uns les autres, et dans les strophes de l'Acatiste, on dit ça, on dit à la Mère de Dieu combien elle est belle, hein, vous voyez. Et cette beauté, c'est la transfiguration corporelle de la Mère de Dieu. On le voit sur les icônes, etc. Donc, oui, ce sont des éléments extrêmement importants. Et le fait aussi que, donc, c'est toujours pareil, c'est le but qui est intéressant. C'est comme dans l'évangile du publicain, on part d'un stade qui n'est pas très brillant, l'état actuel de notre vie, de notre âme, de notre corps, bon, mais sur la base de la foi, on va vers quelque chose d'extraordinaire, un horizon exceptionnel dont les saints donne déjà l'exemple et la preuve. Et nous le croyons parce que c'est dans les sacrements, vous voyez. Moi, ce que je pense, moi personnellement, je pense que l'ensemble de du corps humain, de tous les hommes, est sanctifié par le Christ. Parce que l'incarnation du Verbe, c'est une incarnation universelle. C'est-à-dire, toute l'humanité est assumée par la personne divine du Christ. Toute l'humanité. Même ceux qui ne se croient pas, qui croient ou qui ne sont pas baptisés, tout le monde. C'est parce que c'est objectif, si vous voulez, c'est la nature. Donc, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle nous, les chrétiens, on ne peut pas accepter la torture. C'est impossible. Hein, il y a des mouvements chrétiens, comme un mouvement qui s'appelle l'ACAT, auquel je participe, qui s'appelle Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. On lutte pour que la législation dans tous les pays fasse disparaître la torture. On ne peut pas torturer un être humain. On ne peut pas atteindre au corps de l'être humain. Parce que ce corps, c'est un corps sanctifié par l'incarnation. Ce n'est pas un problème moral, vous voyez. Le christianisme, ce n'est pas une morale. Ça n'a aucun intérêt, la morale. Ce n'est pas un problème moral. C'est un problème théologique, un problème spirituel. Donc la torture, c'est impossible. La prostitution, c'est pareil, c'est impossible à accepter pour une conscience chrétienne. Pas pour des raisons morales. Mais parce que le corps est saint. Et donc transformer le corps de qui que ce soit par la torture, par la prostitution ou par la pornographie, etc., le transformer en objet, c'est quelque chose qui est complètement à côté de la réalité. C'est complètement arriéré. C'est une négation de l'incarnation de Dieu. Donc c'est impossible. Vous voyez, notre attitude chrétienne par rapport aux déviations sexuelles, j'en pense, c'est très important. La pornographie est quand même a une place importante dans les médias, c'est qu'il faut quand même en parler. Bon, pourquoi est-ce que ça ne va pas? Pourquoi est-ce que c'est quand même inadmissible du point de vue chrétien? C'est pas un problème moral, là aussi. C'est que c'est complètement en dehors de la réalité. C'est irréel. La pornographie est irréelle. La prostitution est irréelle. Et la torture, c'est également quelque chose d'irréel, même si c'est abominable, mais c'est irréel. Parce que la réalité, c'est que ce corps est saint. Le corps de cette femme est saint et la sexualité de telle personne est sanctifiée aussi, parce que la sexualité d'une personne, ce n'est pas la sexualité d'un objet, ce n'est pas une chose, le sexe n'est pas une chose, la femme n'est pas une chose, le corps masculin non plus n'est pas une chose, et le corps du Christ n'est pas une chose, vous voyez. On est dans le domaine du corps personnel. Alors ça, c'est extrêmement important. Et donc, c'est pour ça que le respect qu'on a les uns à l'égard des autres, à l'égard du corps d'autrui, est fondée sur la foi. Alors ça, c'est pour tout le monde. Mais en plus, si c'est un corps baptisé, bah, vous voyez, c'est encore le niveau au-dessus, vous voyez, parce qu'un corps baptisé, c'est un corps qui est plongé dans la vie du Christ, qui est incorporé au corps du Christ de manière personnelle, donc maximale. C'est un corps qui est loin avec le Saint-Crème, donc sanctifié par la grâce du Saint-Esprit, Mirunjit, de la Sfintul Mir, care este taină Sfântului Duh, ceva extraordinar, ceva minunat. Donc le corps de l'être humain est sanctifié par la grâce du Saint-Esprit, par le baptême. Et en plus, il se nourrit du corps et du sang du Christ quand il communie. Donc ça veut dire que le corps d'un chrétien, on n'ose même pas l'approcher tellement il est grand, tellement il est saint, tellement il est déifié. Et puis, vous rendez compte, quelqu'un qui se nourrit du corps et du sang du Christ, mais on ne pense pas à ça. C'est une chose extraordinaire. Les saints, alors quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Saint Nicolas Cabasila, c'est un saint grec du XIVe siècle, qui a été canonisé récemment, mais ça n'a pas d'importance, il a toujours été vénéré dans notre Église. Saint Nicolas Cabasila dit une chose très importante pour l'Eucharistie, pour la communion eucharistique. Il dit que quand nous communions avec foi, bien sûr, c'est pas une magie non plus, hein, quand nous communions avec foi et avec le meilleur de nous-mêmes au corps et au sang du Christ, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce n'est pas le corps et le sang du Christ qui se transforment en nous, mais c'est nous qui sommes transformés en lui. Noi insum suntem schimbați intru trupul lui Hristos, intru sângele lui Hristos. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc ce n'est pas la même... C'est pas la même chose qui se passe. Nicolas Cabasila explique que ça. Il dit quand tu manges du pain ou du poisson, bah, tu métabolises ces aliments, tu les transformes dans ton corps et dans ta chair, en principe, si tu fonctionnes normalement. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Mais dans le cadre de la communion, c'est le contraire. Tu es christifié. Bon, tout ça pour dire que donc, un chrétien, un enfant qui vient de baptiser, qui vient de communier, vous, même nous, même moi pécheurs, qui venons de communier, nous sommes inapprochables. Hein. Tellement nous sommes saints. Notre corps ne peut être approché qu'avec respect. C'est pour ça que dans beaucoup d'églises orthodoxes, parce que l'église orthodoxe est une église très très sage, j'ai remarqué en Grèce en particulier qu'après la communion, les gens, même quelquefois ne s'embrassent pas l'un l'autre. Ou bien s'ils s'embrassent, c'est avec un grand respect, où ils font même une métanie l'un devant l'autre, parce qu'ils honorent dans l'autre, dans le corps de l'autre, ils honorent un corps sanctifié par l'Eucharistie. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que nous insistons là-dessus, parce que ça veut dire qu'on va, si on prend au sérieux le carême, si on se prépare mieux à la communion, si on se prépare, si on participe gestuellement, on fait les métanies, le signe de croix, pas à toute allure, mais vraiment, ça sanctifie le corps, le signe de la croix. C'est un geste, c'est un très beau geste, c'est le plus beau geste du monde, presque. Quand on vénère les icônes, on peut les vénérer aussi. De tout son cœur, mais de tout son corps aussi, vous voyez. Parce que le geste, c'est très beau. Moi, une fois, j'ai vu une femme approcher d'une icône comme ça, et elle vénérait vraiment de tout son corps, de toute sa personne. J'ai pleuré vraiment de voir ça, tellement c'était beau. C'est-à-dire qu'il y a une transfiguration, on la voyait que de dos, je voyais cette personne, et dans sa silhouette, dans son corps qui s'approchait de l'icône de la Mère de Dieu pour la vénérer, il y avait une transfiguration. Vous voyez, toutes les formes du corps étaient dilatées par la foi et la prière qu'il y avait dans son cœur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et la beauté du geste, ce n'est pas une beauté esthétique, hein, tu vois. C'est une transfiguration de la forme corporelle dans un geste qui a un sens. Le moment où le corps devient langage, le corps devient parole, le corps devient esprit. Le corps devient lumière, mais c'est réel, c'est comme ça que ça se fait. Et même nous, je dis ça pour moi-même parce que je me rends pas bien compte, mais quand on célèbre, on célèbre tous, mais les prêtres sont très en vue, puis alors, on n'a pas d'iconostase, alors on ne peut même pas se cacher derrière l'iconostase, hein, c'est embêtant, ça, on va faire une iconostase. Donc on est tout en vue comme ça. Mais les gestes qu'on fait de bénir, d'encenser, de faire le signe de croix, de s'incliner, tout ça, normalement, ça devrait être une expression corporelle, hein. Magnifique, hein, de la foi. Vous voyez, moi j'ai vu une fois, je peux le citer, c'est le maître, parce qu'il est finalement, il n'a pas été élu patriarche. Le métropolite Amphilochie du Monténégro, qui est un métropolite serbe que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai été une fois dans l'hôtel avec lui, je voyais célébrer. Et c'était extraordinaire parce qu'en fait, il célébrait un peu comme Monseigneur Joseph. Il ne faisait pas des rites, hein. Il était naturel. Naturel, ce qu'il faisait, il le faisait naturellement, mais avec une beauté, vous voyez, une translucidité, tous ses gestes voulaient dire quelque chose, tous ses gestes étaient conscients, tous ses gestes étaient comme une parole. Et il ne disait rien. Un homme très silencieux, le métropolite, il parle très peu. Mais il exprimait gestuellement. Donc vous voyez, il y a beaucoup à faire pour, je pense que c'est le but du carême, m'arrête après, pour renouveler un peu notre sens du corps, renouveler notre pratique du corps, dans d'autres domaines aussi, hein. Par exemple la vie familiale, par exemple notre attitude dans le domaine moral, j'ai parlé un petit peu de quelques exemples, mais dans le domaine de la bioéthique, enfin, la position chrétienne orthodoxe en particulier, elle a une raison d'être, c'est une certaine, c'est pas une théologie, c'est pas une théorie du corps, mais une connaissance de la réalité actuelle du corps et de la réalité future du corps qui ressuscitera. Alors, pardonnez-moi, c'est déjà un peu long. Il faut arrêter ce truc-là. Donc, on a du temps encore pour une question ou deux avant de, c'est un peu compliqué, hein, ce que je veux dire.
Tous ces gestes liturgiques, tout le carême, tout le prière, tout le matin, transforment notre corps d'une manière spirituelle, c'est vrai. Mais après, nous faisons aussi du sport, du danse, qui sont très bons pour la santé, qui nous apportent de joie.
Il y a tasse noire des locs. si vous pouvez parler plus. Vous avez parlé français, en français, vous avez parlé français là, je crois. Mais je n'entends pas du tout.
Je disais.
Ah voilà.
tous les gestes liturgiques, oui. Le carême, le matin, oui, oui. Que nous faisons, nous transforment notre corps d'une manière spirituelle.
D'accord.
Mais après, il y a aussi le sport, la danse, les choses qui sont bien pour la santé, qui nous apportent beaucoup de joie.
Oui, oui, oui.
Mais est-ce que vous pensez que ces activités risquent de nous faire perdre la partie spirituelle de notre corps, la transformation de notre corps,
tout le monde a compris la question. Est-ce qu'il y a une contradiction entre la sanctification du corps dans l'Église par les rites, etc., et une certaine valorisation du corps dans des activités culturelles ou sportives? Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est très clair, c'est que le domaine du sport, par exemple, que nous aimons beaucoup tous, si on remonte historiquement, il vient de la culture grecque, et qui était en fait une culture dans laquelle le corps était valorisé pour lui-même, objectivement, mais sans coordination avec Dieu. Donc, de toute façon, si vous voulez, il faut faire preuve de discernement. L'importance donnée au corps dans le domaine, par exemple, du sport ou de... on va dire le sport, l'athlétisme, c'est une importance qui est quand même... qui n'est pas aussi intéressante, qui n'est pas aussi profonde que celle qui est donnée dans l'Église, parce que c'est le corps n'a pas d'intérêt en lui-même, vous voyez. S'il était en lui-même, il se décompose, il disparaît, il n'y a plus rien. Ce qui fait la profondeur du corps, c'est justement l'image de Dieu dans l'homme, la profondeur de l'âme, la foi, le cœur, tout ce qui est dans le corps. C'est comme c'est tout ce qui nourrit le corps, en fait. Et c'est ça qui fait sa valeur et sa profondeur. Donc je crois qu'il faut quand même dire ça pour bien discerner. On peut pas, même par exemple dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'affiche, de la publicité, de la peinture, il y a des peintures, des sculptures qui valorisent le corps humain, etc. Mais c'est une valorisation qui est un peu suspecte. Pourquoi ? Parce qu'elle transforme le corps en objet. La peinture ou la sculpture de Michel-Ange ou de... c'est vrai que c'est intéressant, mais il y a quelque part quelque chose qui n'est pas très juste, parce que c'est un corps qui est transformé un peu en idole. Hein, c'est un peu une idole, c'est-à-dire chosifié, objectivé, mais ce n'est pas le corps transfiguré qui irradie la lumière divine qui serait dedans. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc c'est pour ça que pour nous, il y a une différence importante entre l'icône, parce que l'icône atteste la transfiguration de la chair, atteste la transfiguration du corps, et la photographie d'un top modèle, oui, par exemple. Ce sont des choses très très différentes. Alors cela dit, pour être positif en tout, je crois que les activités que nous avons dans le domaine de la culture, par la danse par exemple, la danse, le sport, des activités, pour des chrétiens comme nous essayons d'être, enfin, moi j'essaie d'être chrétien, je me dis j'ai peut-être commencé cette année à être chrétien, si je commençais, ça donnerait peut-être envie aux autres de commencer aussi. Et Saint Antoine justement disait ça, il dit bon allez, aujourd'hui je commence. Donc si je commençais, donc je m'enracinerais dans l'Église, ça veut dire que mes activités dans le domaine de la culture seraient des prolongements. Je crois que notre relation au sport, à la danse, mais au cinéma, à la peinture, etc., notre relation au monde de la culture est une relation qui est une relation de transfiguration, mais transfiguration à partir de ce qu'on vit dans l'Église. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le sens du geste, quelqu'un qui apprend le sens du geste, pas dans la liturgie, dans les métanies, eh bien, après ça, ces gestes dans le monde vont être différents. Mais tous les gestes, dire bonjour à quelqu'un dans la rue, et aussi les gestes culturels, par exemple. Moi, j'ai lu un livre, c'est une danseuse d'opéra, une chorégraphe, qui s'appelle Mireille quelque chose, vous le connaissez peut-être. Et cette personne-là, elle est devenue moniale, d'ailleurs, elle est devenue religieuse, dans l'Église catholique. Mais elle cherchait ça, elle cherchait à danser pour Dieu, c'est-à-dire à exprimer corporellement son amour pour Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'elle avait bien compris, toute seule, comme une grande, dans un milieu pas orthodoxe du tout, pas avec notre bonne théologie qui nous explique les choses, elle avait senti ça, vous voyez, et finalement elle a arrêté de danser, elle est entrée au monastère. Bon, c'est raté pour la danse, mais bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre ça, c'est que le geste que tu fais dans le domaine du sport, par exemple, je pense qu'on peut pratiquer un sport d'une manière chrétienne, c'est-à-dire pas unique dans un esprit de compétition, pas pour écraser les autres, pas pour gagner de l'argent, pas pour, vous voyez, mais pour le bonheur d'être ensemble, parce que c'est une expérience communautaire, parce que c'est une expérience d'amitié, parce que c'est une expérience de fraternité, parce que c'est une expérience effectivement d'hygiène, de santé, quelque chose qui est beau, qui est bon, qui est sain, S-A-I-N, hein, vous voyez, et qui peut être le prolongement, qui peut être relié, connecté à ce qu'on vit dans l'Église, vous voyez. Et on peut venir à l'Église et apporter sur son diptyque, sur les pomelniques, mettre les noms de des gens avec qui on pratique du sport. Oui, on peut les apporter dans l'Église, on peut les bénir, on peut dire aux gens avec qui on fait du sport, on prie pour toi, Dieu te bénisse, bonne fête, on peut les bénir eux-mêmes. Oui, viens à l'Église recevoir l'onction, vous voyez, essayez de coordonner. C'est-à-dire, je crois qu'il faut faire très attention, il faut lutter contre tout ce qui est de caractère schizophrénique, c'est-à-dire les coupures où on a une activité dans l'Église, une activité dans le monde. Ça, je pense que ce n'est pas du tout ce que veut Dieu, vraiment pas. Hein. Et au contraire, ce que veut Dieu, c'est la sanctification du monde. Mais le monde se sanctifie à partir de l'Église. Donc les gestes du monde ou les activités corporelles du monde, elles sont transfigurées progressivement, mais petit à petit, elles peuvent être transfigurées à partir d'une expérience de transfiguration qui est celle du monde. Donc on pourrait recommander en temps de carême, vivez le carême sérieusement, du point de vue alimentaire, du point de vue gestuel, du point de vue corporel, et pratiquez un peu le sport. Allez marcher en forêt, jouez au ballon, faites la course avec vos enfants, vous voyez, au lieu de regarder la télévision. Ça peut changer, par exemple. Moi, je pense que c'est une des bonnes choses à faire pendant le carême, c'est d'éteindre la télévision ou d'enlever les trucs qui sont derrière. On peut la débrancher, vous la mettez en panne, simplement.
Vous fermez l'abonnement. Hein?
Comment ?
Fermer l'abonnement.
Voilà, ou fermer l'abonnement. Bon, et avoir justement une activité corporelle. Mais quand tu vas en forêt courir, tu peux t'arrêter et dire « Gloire à toi pour ton monde !» Vous voyez, c'est pas coupé, les choses ne sont pas coupées. Et ce qui est important, c'est d'avoir cette conscience spirituelle que Dieu est partout présent, que Dieu veut le salut de toutes choses, que ce corps avec lequel je danse, je joue, donc avec lequel je frappe dans une balle, est quand même le corps du Christ qui joue au ballon.
Moi, je dirais que si je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je commence, je n'irai pas au bal.
Si vous êtes aujourd'hui que vous commencez.
Oui, je me dis, je commence aujourd'hui, oui. Je n'irai pas au bal danser, par exemple.
Oui, oui. Oui, ça c'est une question de temps, de gestion du temps. Je pense que si on avait le temps, on irait aussi au bal. Mais je crois que la vie spirituelle, l'investissement dans la foi, dans la prière, dans... quelquefois ça demande vraiment beaucoup, de... même de temps. Donc on n'a plus tellement de temps pour d'autres choses. Et c'est pour ça que l'Église, très sage comme tout, elle ne donne que 4 carêmes par an, c'est rien du tout. Un carême avant Pâques, un carême avant Noël, un carême avant la Mère de Dieu, un carême avant les apôtres. C'est suffisant. Parce que si c'était tout le temps, on ne pourrait pas. Il faut quand même faire un petit peu autre chose. On n'aurait plus le temps d'aller au cinéma, on n'aurait plus le temps d'avoir sa famille. Je pense que c'est très sage aussi. Il faut que l'être humain puisse aussi aller au bal. Il faut qu'il puisse aller aussi au cinéma. Il faut qu'il voit sa famille. Il faut qu'il parle à ses voisins athées, agnostiques. Il faut qu'il promène son chien qui l'attend. Il faut qu'il donne à manger aux poissons dans l'aquarium qui ont faim. Il faut qu'il regarde la nature. Dieu te donne aussi du temps pour faire un petit peu autre chose. Mais c'est vrai qu'une démarche vraiment de foi, ça demande un investissement. Et le carême est un investissement. C'est vrai, ça, il faut être sérieux. Et si vous voulez apprendre, c'est parce que s'il y a des gens qui jouent de l'instrument de musique parmi vous, jouent du piano, jouent du violon, ben c'est un investissement. Hein. Si tu ne fais pas 3 heures de violon au moins, ou 8 heures de violon ou de piano par jour, tu ne seras jamais ni violoniste ni pianiste. Alors là, il y a une vie, la vie chrétienne, si vous voulez, quelque part, c'est quand même, ça demande un certain professionnalisme quand même. Moi, je suis pour ça. Je suis pour qu'on prenne la vie chrétienne au sérieux. C'est un métier d'être chrétien aussi. C'est comme un artisanat. C'est pas n'importe quoi. Vous voyez, il faut arrêter de faire du christianisme une espèce d'option qu'on fait en plus quand on a le temps. Mais c'est pas très intéressant, à ce moment-là. Vous voyez, une activité. J'ai des amis comme ça. Ils disent tu vas à l'église toi le dimanche. Moi, je fais du sport moi, le dimanche. Oui. Donc chacun a son activité le dimanche. L'un va à l'église, l'autre fait ça. Mais c'est nul comme manière de présenter. Le christianisme n'est pas une activité parmi d'autres. C'est un investissement de tout l'être. Il y a nos amis qui vont être baptisés ici. Je vous assure que c'est pas pour choisir une activité comme le bridge ou je sais pas quoi. Vous voyez, c'est toute ta vie qui change et qui est immergée, transformée, transfigurée, parce qu'il passe de la mort à la vie. Et donc, si nous prenons le christianisme vraiment au sérieux, c'est beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant. Je pense qu'une des choses qui a fait perdre le pied au christianisme dans différents pays, c'est le fait qu'on l'a pratiqué d'une manière tout à fait superficielle, et à la va-vite, comme une activité secondaire, ou tertiaire, on va dire. Un truc qu'on fait après, quoi. Pardon. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? L'autre question, c'est quand est-ce qu'on arrête? L'autre question, on ne veut pas la poser. Et l'autre question derrière, c'est quand est-ce qu'on mange?
Peut-être vous pouvez conclure un peu avec quelques paroles sur le rôle de corps dans le mariage, le mariage chrétien, qu'est-ce qu'il doit être?
Ça, c'est une question qui, évidemment, c'est un chapitre extraordinairement intéressant qui découle de ce qu'on a dit. C'est que si le corps est sanctifié, ça veut dire que tout le corps est sanctifié. C'est-à-dire les activités alimentaires et les activités liées à la sexualité, à la procréation, à la gestation. Parce qu'il n'y a pas de coupure. Il y a un très bon livre qui a été publié par un évêque orthodoxe de l'Église grecque, quoi qu'il soit anglais, enfin, qui est métropolite, il paraît qu'il est métropolite maintenant, ou en tout cas évêque, Callistos Ware, et son livre s'appelle, je crois, Tout est saint, ou non comme ça. Et il explique très bien que comment la sexualité, mais elle-même, les parties sexuelles de notre corps sont des parties saintes. Donc la première chose, c'est, je pense, du point de vue éducatif, parce qu'il y a des écoles où on pratique l'éducation sexuelle, en Roumanie aussi, maintenant ça se développe, mais en Italie, mais d'une manière complètement aberrante, j'ose le dire. Et je pense que si nous avions le temps dans le catéchisme et le catéchèse d'aborder ces questions-là, nous parlerions à nos enfants de la sexualité, de leur sexe même, en disant, mais ton sexe est béni. Donc tu joues pas avec, c'est pas un jouet. Quand je dis ça, et quand les enfants viennent se confesser, ben je dis, ton zizi n'est pas un jouet, je suis désolé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un jouet. Alors non seulement c'est pas un jouet, c'est-à-dire que tu ne vas pas jouer avec, mais tu ne dois pas laisser les autres jouer avec non plus. Excusez-moi, je mets les pieds là en place, ça ne vous gêne pas. Hein. Donc je ne suis pas un jouet pour autrui, mon sexe n'est pas un jouet ni pour autrui ni pour moi-même, on n'est pas dans le monde du bricolage, on n'est pas dans le monde de la mécanique corporelle, vous voyez. Mon sexe est saint, parce qu'il a été immergé par le sabbatème, etc. etc., etc. Donc c'est une espèce de respect du corps, mais qui est un respect du corps, parce que ce corps n'est pas à moi. ce corps est au Christ, ce n'est pas mon corps, vous voyez, c'est le corps du Christ qui m'est confié dans mes membres. Et donc voilà, donc je le respecte. Donc c'est la première chose. Après ça, c'est vrai que, du coup, c'est pour ça qu'on donne de l'importance au mariage. Mariage en tant que sanctification et consécration de la sexualité. La sexualité, pour les chrétiens, n'est pas une activité sauvage, n'est pas une activité déconnectée de la sainteté du corps, n'est pas déconnectée de la personne, n'est pas déconnectée de la foi en Dieu. La sexualité, c'est quelque chose que Dieu nous donne, qui n'est pas à nous. Donc, si nous avons des attitudes, bien sûr, très différentes de nos contemporains. J'ai pris le métro en venant. Je ne suis pas venu en métro jusqu'à Toulouse, je vous rassure. Hein. J'ai pris le métro pour aller au train qui allait à Toulouse. Et dans le métro, il y a des grandes affiches avec contraception, avortement, le droit de disposer de son corps. Des belles affiches comme ça. Et on voit plein des jeunes gens, des femmes, etc., qui défendent leur droit à disposer d'eux-mêmes. Mais je les comprends très bien. C'est assez sympathique, au fond. Mais ce n'est pas... nous, les chrétiens, on ne pourrait pas dire ça, parce que nous, moi, en tant que chrétien, je ne dispose pas de mon corps. Ce corps que j'habite, à travers lequel je m'exprime gestuellement, parce que je suis d'origine italienne, donc les latins s'expriment beaucoup corporellement. Bon, ce corps, je l'appelle mon corps, mais parce que c'est une manière de dire, mais c'est ton corps, ou c'est notre corps. C'est un corps qui m'est commun et dont je ne dispose pas, je n'ai pas de droit sur ce corps, je ne peux pas en faire ce que je veux, ou alors il faut que je demande la bénédiction à mon père spirituel, est-ce que tu me bénis pour me marier, tu me bénis pour, on voudrait, moi j'ai des fidèles qui font ça, ils voudraient avoir un enfant, c'est une bonne idée, ça, mais ils vont trouver leur père spirituel, il dit père, est-ce que tu me donnes la bénédiction, on voudrait concevoir un enfant, est-ce que tu nous pries, donc bien que marié, etc., il demande la bénédiction à leur père spirituel pour s'unir, pour s'aimer, pour concevoir un enfant, c'est beau, il prie avant, moi je trouve ça magnifique, il y a quand même des chrétiens qui ont la conscience que l'acte sexuel, l'acte conjugal, de rapprochement, de communion, est quelque chose qui est béni par Dieu, qui est donné par Dieu, pas seulement permis comme une chose qui serait tolérée, non, mais une chose bonne, mais que tu reçois de Dieu. Et c'est, nous avons un grand respect. Moi, je parle beaucoup avec des jeunes adolescents, parce que j'ai l'habitude, et ils me demandent, mais pourquoi est-ce que ceci, pourquoi est-ce que cela, pourquoi est-ce que l'Église ne permet pas de vivre ensemble avant le mariage, etc. Je dis, c'est pas un problème de permis et d'interdit, mais c'est parce que ta vie, ton l'expression sexuelle de ta personne, parce que c'est pas la vie sexuelle n'est pas détachée, mais l'expression sexuelle de ta vie corporelle a une grande importance. A une grande valeur. C'est parce que c'est quelque chose de très important qu'on en parle de cette façon-là. Si on méprisait la sexualité, on dirait aux gens, bah, faites ce que vous voulez, on s'en fiche, ce qui est important, c'est la vie spirituelle. On dirait ça, mais on ne dit pas ça. On dit que la vie sexuelle est très très importante parce qu'elle est l'expression de l'amour entre les personnes, elle est l'expression d'une obéissance à Dieu qui nous dit ça, lui dit croissez, multipliez, etc. Mais elle n'est pas que pour la fécondité, elle est pour l'expression de l'amour, de la foi commune, de l'esprit commun, de l'âme commune du couple. C'est très important, par l'union sexuelle, par l'expression sexuelle de l'amour, le couple exprime son unité d'âme. Son unité de foi, son unité de sentiment, son unité de vision du monde, c'est un événement extraordinaire. Et donc, que ça soit banalisé par la culture, par la télévision, transformé en objet, caricaturé quand même par la pornographie, qui est partout maintenant, déformé, ben ça c'est une chose qu'on ne peut que déplorer. Mais on n'est pas là pour diaboliser le monde, on est là pour faire une contre-proposition beaucoup plus intéressante. Et de dire, nous, ce qu'on propose, c'est la revalorisation du corps. Et donc, ça veut dire que dans la vie conjugale, il y a un respect de l'un de l'autre, qu'on va prendre sur soi, surtout les hommes, on est souvent comme ça, on a notre désir et tout. Mais non, tu peux, en tant qu'homme, mettre ton désir un petit peu en arrière et penser à qu'est-ce que souhaite l'épouse, penser à elle plutôt qu'à toi-même. Vous voyez, la vie dans le mariage, c'est souvent terrible. Moi comme prêtre, je suis prêtre depuis très longtemps maintenant, j'ai entendu quand même beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup d'abus. Beaucoup de femmes supportent des choses abusives, c'est des choses qui ne sont pas le mariage, au fond. C'est dans les mariages chrétiens, mais ce n'est pas du mariage. C'est, de la, ce qu'on appelle la fornication, si je peux dire. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas normales. Il faut quand même évangéliser le couple, évangéliser la sexualité du couple et évangéliser le fait que la relation sexuelle dans le couple, c'est une relation entre des personnes. L'épouse n'est pas une chose pour le mari et le mari n'est pas une chose pour la femme. Chacun est une personne et on est en communion personnelle, donc ça veut dire de l'amour, ça veut dire se respecter, ça veut dire s'attendre, ça veut dire sacrifier son besoin, son prétendu besoin sexuel. J'ai besoin de... Oui, bah attends avec ton besoin, pense un petit peu à l'autre, hein, bon. Ça veut dire jeûner, ça veut dire... Vous voyez, c'est tout... il y a une ascèse. Et c'est pour ça que l'Église orthodoxe, qui est très sage, qui est mon Église, j'assure que je suis devenu orthodoxe avec mon épouse il y a 35 ans maintenant, je recommencerai immédiatement s'il avait à le faire. C'est une Église extraordinaire, l'Église orthodoxe, parce qu'il y a une sagesse, il y a une intelligence, il y a une connaissance de l'être humain, il y a un projet pour l'homme qui est extraordinaire. Et justement, l'Église orthodoxe, dans sa sagesse, propose pendant les temps de carême... que nous, je dis nous les gens mariés, enfin pas pour les moines qui vivent dans la chasteté et la virginité toute leur vie, mais que nous les époux, nous faisions l'expérience d'un certain jeûne conjugal pendant cette période-là. Alors, les gens qui disent, mais 40 jours c'est épouvantable, on ne tiendra jamais. Bon, attends, il faut avoir des pères spirituels. Moi je trouve que c'est très bien d'avoir des pères spirituels, parce que le père spirituel c'est celui qui adapte à toi, à ton problème, à ta force. Moi, j'ai des fidèles que j'aime beaucoup. Au début du carême, ils vont venir bientôt, ces fidèles-là. Ils vont venir, ils vont prendre rendez-vous. Je sais pourquoi ils vont venir. Ils vont me dire, Père, est-ce que tu nous donnes la bénédiction? On voudrait jeûner des rapports conjugaux pendant le carême. Parce que je sais qu'ils vont venir. Je les vois déjà. C'est des gens très bons, meilleurs que moi. Donc, ils vont venir, ils vont me demander la bénédiction. Et je vais leur dire, écoutez, les enfants, vous êtes sûrs que c'est pas trop ambitieux? Je vous trouve bien. Non. Et puis, je vais prendre l'un, je vais prendre l'autre. Et je vais demander à l'un, est-ce que vous êtes bien d'accord tous les deux? Et à l'autre, je vais dire, est-ce que vous êtes bien d'accord tous les deux? Et si je sens, en parlant avec l'un et avec l'autre, qu'ils ne sont pas bien d'accord tous les deux, que c'est elle qui veut ou c'est lui qui veut, qui impose à l'autre, je ne leur donne pas la bénédiction. Je ne leur donne pas la bénédiction pour pratiquer ce jeûne conjugal, parce qu'il faut absolument qu'ils soient d'accord que cette abstinence sexuelle soit l'expression de leur amour, justement. Et qu'ils s'abstiennent pour plus d'amour. Qui s'abstiennent pour renouveler la relation conjugale, qui s'abstiennent pour retrouver l'esprit des fiançailles, etc. Vous voyez, qui a un projet. Ce n'est pas une abstinence négative, vous voyez. Il n'y a rien de négatif dans l'Église, ça n'a aucun intérêt. Vous voyez ça. On ne fait rien de négatif. C'est toujours pour redécouvrir les choses, pour revaloriser les choses, pour réinventer les choses. Donc il y a une réinvention de la sexualité à travers l'expérience de l'abstinence. Alors, si c'est abstinence, si 40 jours c'est trop, quelquefois le père spirituel va dire, bah, écoute, faites la moitié du carême, par exemple, à partir de dimanche à la croix, c'est bien, ça va que 15 jours, 3 semaines, c'est pas mal. Vous abstenez de relations conjugales pendant 3 semaines, ça c'est supportable. S'il dit, encore c'est trop, bah, alors, une semaine, allez, on négocie toujours, tu vois. une semaine, je baisse pas mes prix après, hein, c'est tout. Quand même, une semaine. Et donc, pendant une semaine, ils vont vivre comme des frères, comme des fiancés. Oui, mais deux semaines, trois semaines, 40 jours, c'est bien aussi, si on peut. Parce que tu redécouvres quelque chose. Donc ça, si vous voulez, c'est ça ce que j'appelle l'évangélisation de la sexualité. Et la transfiguration aussi de la sexualité par une certaine forme d'ascèse, mais qui est, comme vous l'avez bien compris, qui est pour transfigurer encore la sexualité. Mais le problème de la sexualité, c'est que la tendance, c'est de la faire fonctionner en elle-même. C'est le problème de la pornographie, c'est le problème de l'érotisme, c'est le problème... Bon, c'est très vite... On évite, comme si dit Saint Grégoire de Nice, que les pères anciens parlaient beaucoup de ça, ils n'étaient pas gênés. Hein. Grégoire de Nice dit, c'est vite fait, on évite dans un comportement sexuel qui détache l'activité sexuelle du reste de l'homme. Donc, faire extrêmement attention. En fait, il s'agit de transfigurer la sexualité, que la sexualité soit ce qu'elle est, en fait, par nature, ce que Dieu a voulu qu'elle soit en la donnant à l'être humain, dire l'expression de la communion des personnes. Vous voyez? Et donc, à ce moment-là, elle rejoint la sexualité monastique. Il y a une sexualité monastique qui est la virginité, qui est la transfiguration de la sexualité par la consécration à Dieu. Alors, le fait que toutes les forces qui sont en nous, les forces biologiques, les énergies qui sont en nous, elles sont donner à Dieu, transfigurer à Dieu, déifier en fait, vous voyez. Il y a une déification des énergies créées par les énergies incréées, comme disent les pères anciens. Donc vous voyez, ça touche à des choses très profondes. Donc vous voyez, ça commence par l'éducation de nos enfants, ça continue par les catéchèses de préparation au mariage, par exemple, qu'on doit faire dans ce sens-là, et ça continue aussi par un accompagnement des couples mariés, donc, par leur père spirituel et leur prêtre, en osant parler des choses. Moi, j'ai des amis vraiment qui sont très courageux, qui osent parler des difficultés qu'ils ont dans la vie conjugale, des choses qui sont difficiles à dire pour eux, mais ils en parlent et on trouve une solution ensemble, généralement la prière, le jeûne, le conseil. Je sais pas, moi je suis pas gêné de parler de ces choses-là. J'ai un couple d'amis qui vient et ils veulent se séparer. Bon, quelle idée ? Ils veulent se séparer ? C'est fou ! Malade ? Qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi ? Depuis quand il s'est passé ? Bah bon, on commence à parler. Et en fait, on s'aperçoit que ils ont il y a un égoïsme sexuel chez l'un des deux. Alors, ça ressort dans la conversation que j'ai eue avec eux. Alors je dis, mais est-ce que vous aimez ? Je dis, mais oui, on s'aime. Alors, si vous aimez, vous n'allez pas vous séparer. Mais ils s'aiment, ils sont prêts à se séparer parce que l'égoïsme sexuel de l'un des deux n'est pas satisfait. Ça revient à peu près à ça, je ne fais pas de dessin en couleur, vous voyez ? Donc c'est à peu près ça. Alors ça, c'est très intéressant, c'est un cas très fréquent. C'est un cas très fréquent. Il y a beaucoup de gens qui se séparent alors qu'ils s'aiment. Parce que l'activité sexuelle devient tellement importante, prend toute la place, que c'est plus important que l'amour. Alors je leur ai dit ça. Je dis, mais attends, le couple ne repose pas sur la vie sexuelle. Il repose sur l'amour, sur la foi, sur la vie spirituelle commune, sur la foi dans le Christ. La preuve, c'est quand tu es malade, quand vous êtes malade, bah, vous ne faites plus l'amour, que je sache. Quand l'un des deux est, je sais pas quoi, handicapé ou absent, tiens, par exemple, un des deux part en Chine pendant 6 mois, bah, tu ne fais pas l'amour pendant 6 mois, c'est bon. Tu l'aimes quand même. Tu l'aimes quand même. Tu n'as pas trouvé une autre femme ou un autre homme pendant ce temps-là. Je ne sais pas où on va à ce moment-là, vous voyez. Donc, ça veut dire que l'amour est plus important que la sexualité elle-même. Et quand tu seras mort, ah, je vais pas penser à ça. Ben, si, il faut y penser. Quand on va être mort, on va s'aimer quand même. On les aime, les morts. Mais on n'a pas de relation sexuelle avec les morts. Alors, ça devient macabre. Hein? Bon, donc ça veut dire que la sexualité n'est pas la base du couple. Que c'est l'amour qui est la base du couple. D'accord? Alors donc, ça veut dire aussi que chaque fois qu'il y a une relation sexuelle, elle va être l'expression de cet amour. Alors donc, ces amis que j'aime tendrement, je parle comme ça légèrement, mais en fait, ça, j'ai mal partout quand je pense à eux. Parce que c'est tellement fréquent. Et l'égoïsme sexuel, c'est une chose terrible. Donc, comme les autres formes d'égoïsme. Justement, les pères anciens disaient qu'au fond, c'est de l'amour de soi. C'est que la personne a tellement besoin du plaisir, tellement besoin de se réaliser dans l'acte sexuel, tellement l'impression qu'elle ne peut pas s'en passer, etc., qu'en fait, elle est prisonnière de l'amour d'elle-même. Comment est-ce que je vais me passer de cette activité, de ce plaisir qui me plaisir, dont j'ai besoin. Tout commence par me, je, c'est extraordinaire quand même. Donc, et l'impossibilité de se sacrifier pour autrui fait qu'en fait, on ne peut pas vivre avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est toujours ça. Alors, donc, je leur ai dit la même chose, je leur ai dit, écoutez, la seule solution, partez en vacances. Et je veux dire quoi ? J'ai dit, partez 8 jours dans un endroit tout seul, sans les enfants. Ils ont 2 enfants magnifiques en plus, c'est n'importe quoi. Alors, j'aurais dit, laissez les enfants à la famille, il y a toujours quelqu'un qui va les accueillir, parce que ce sont des enfants charmants, et vous partez tous les deux 8 jours. Pas forcément au club méditerranéen, mais dans un endroit où vous avez été, un endroit qui soit le pèlerinage de votre amour, puisque vous vous aimez. Retournez à l'endroit où vous êtes aimé. Retournez à l'endroit où vous avez fait l'amour la première fois. Vous avez commencé à se gratter la tête, ça faisait longtemps. Bon, mais retournez, faites le pèlerinage de votre amour et abstenez-vous des relations sexuelles pendant tout ce temps-là. Ah mon Dieu, je sais pas. Ben, je dis, ça, je ne dirai pas autre chose de toute façon. Ça, c'est mon dernier prix aussi. La seule solution, c'est ça. Et tu t'abstiens de relations conjugales pendant 8 jours et tu vas dans les lieux où vous êtes aimés, dans les lieux qui sont forts pour votre amour, tous les deux. La Jérusalem de votre amour, vous allez la retrouver. Et après ça, vous me téléphonez, on va voir ce qu'on fait. C'est la seule solution pour essayer, c'est de déconnecter le besoin sexuel, obsessionnel, quelquefois, il faut reconnaître. Qu'est-ce que vous voulez ? On est c'est la fragilité de l'être humain. Les animaux ne sont pas comme ça. Hein. C'est quelque chose qui est psychique. La sexualité n'est pas, elle est corporelle un peu, mais elle est surtout psychique. Hein. Bon, enfin bref. Donc, il faut déconnecter le besoin de l'amour et laisser l'amour triompher, laisser l'amour devenir premier, c'est-à-dire laisser la personne avoir toute sa place. Ce qui est important, c'est la personne. Oui. Et donc même le corps, dont on disait du bien à l'instant, la valeur du corps, c'est qu'il est le corps d'une personne, le corps de quelqu'un. Et c'est un corps qui a un nom, c'est un corps visage. Même le sexe n'est pas anonyme. J'ai vu un film, c'était avec... c'était pas quel film les deux hommes qui ont hérité d'un bébé qu'on leur a mis devant leur porte. Vous avez vu ce film-là, non? Deux hommes et un couffin, je ne sais pas quoi. C'était très amusant, ce film. Mais c'était très profond du point de vue humain. Et justement, les deux garçons, et donc on leur met ce bébé, il faut qu'ils s'en occupent. Du coup, ils s'en occupent complètement. Et alors, il y en a deux qui commencent à rouspéter parce que justement, il ne peut plus voir sa copine. Il dit, ça fait tant de temps que je n'ai pas fait l'amour, je ne supporte plus, je ne tiens plus, parce que cet enfant est là. Vous voyez, c'est très intéressant comme expérience. Donc, il faut s'apercevoir que le corps ne fonctionne pas comme ça, comme une chose autonome. Voilà, excusez-moi. Pardon, monsieur. Oui, oui, oui.
Comment vous avez dit que tout est sanctifié, que tout est saint. Donc comment on peut s'y retrouver dans juste quelle valeur donne l'Église au plaisir?
Alors, est-ce que vous pouvez redire votre question? Vous pouvez redire, j'entends très mal.
Quelle valeur on peut donner au plaisir
l'Église.
Dans l'Église.
Ah,
au plaisir,
oui.
De manger, au plaisir.
Oui, oui, oui. Alors c'est très important. Ça découle de ça. Ça, c'est toujours notre vision, notre expérience ascétique. Les formes de plaisir qui se trouvent sont, elles ont deux directions. Soit c'est le plaisir égoïste lié à l'amour de soi, soit c'est le plaisir communionnel lié à la communion avec autrui. Et en fait, ce que disent les pères anciens, c'est très intéressant, c'est que la capacité de jouissance en l'être humain est une capacité naturelle et bonne. Et qui n'est pas dans le corps, d'ailleurs, elle est dans ce qu'on appelle le nous, c'est-à-dire la partie la plus profonde de l'âme humaine. C'est très intéressant. Cette capacité de jouissance, elle s'épanouit, elle devait s'épanouir, ou elle peut s'épanouir, ou elle s'épanouit, ou elle s'épanouira dans la communion avec Dieu. C'est un peu ce que la liturgie nous propose déjà un petit peu, cette espèce de jubilation. Une telle joie, un tel bonheur, un tel plaisir en Dieu, une telle jouissance de la personne de Dieu que tout devient relatif par rapport à ça. Enfin bon, tout ça pour dire que le plaisir, que ce soit le plaisir sexuel, que ce soit le plaisir de la nourriture, ce qu'on mange ensemble, ou le plaisir de se promener en forêt, ou le plaisir d'écouter de la musique, etc., 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 le plaisir, il est transfiguré par l'Eucharistie. Ça, c'est très très clair, ça. Hein. C'est-à-dire que c'est la communion, c'est le plaisir comme lieu de communion qui est transfiguré, qui est sanctifié. Et donc, c'est vrai que, par exemple, pour revenir à la sexualité, le plaisir sexuel, dans le cadre, justement, du couple, il est transfiguré, si vous voulez, comme communion de ceux qui s'aiment, hein, qui partagent. Oui, écoutez, on ne s'aime pas, on parle des choses. Hein. Ils partagent un plaisir commun qui n'est qu'à eux, de manière exclusive, c'est extraordinaire, vous voyez, il partage ce plaisir, cette joie de s'aimer, mais ce n'est pas un plaisir déconnecté de l'amour, c'est un plaisir amour, c'est un plaisir joie, c'est un plaisir bonheur, c'est un plaisir foi aussi, parce qu'on fait l'amour avec quelqu'un avec lequel on a la même vision du monde, de la vie et de la mort, vous voyez, c'est très 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 profond, mais c'est vrai que c'est un plaisir, il y a des aspects de... on dit un plaisir partagé, mais c'est pas un plaisir égoïste. Je crois que le vrai problème, c'est l'égoïsme, l'amour de soi. Là, ce que les pères grecs appellent la philaftia, c'est-à-dire même la vie spirituelle, si elle est déformée par l'amour de soi, ça devient pervers. Hein. Il y a des formes de prière qui sont perverses, excusez-moi. Moi, j'entends des gens qui disent « ma prière, faut que je fasse ma prière, ma spiritualité, ma voie spirituelle, Arrête, parce que c'est une manière de toujours tout conjuguer à la première personne. Mais c'est le problème, il est le même. Hein. Cette espèce de détournement d'une chose qui est bonne à son propre profit pour s'auto-développer, s'auto-déifier. Alors c'est vrai que quelquefois, c'est une question très grave ça, parce que quelquefois pour que le plaisir soit partagé, pour que le plaisir puisse être communionnel, et quelquefois il faut y renoncer pendant un temps pour pouvoir justement le partager. Et donc il y a un aspect, c'est le cas du jeûne eucharistique par exemple. Nous venons à l'église, nous voulons communier, c'est-à-dire nous voulons avoir cette jouissance de repas eucharistique commun avec Dieu et avec nos frères. Et qu'est-ce que nous faisons avant ? Nous nous abstenons, nous venons à jeun pour que ce plaisir, cette jouissance eucharistique, ce bonheur eucharistique, ce banquet eucharistique soit total. Et donc je pense que c'est dans les formes de relation, dans la vie sexuelle, c'est un peu pareil. Mais moi je pense qu'il faut faire extrêmement attention à la banalisation de la sexualité où le plaisir devient obligatoire, dû, je te dois, bon, attends, je préfère aller au cinéma. Comme dit, il y avait une bande dessinée très très drôle comme ça qui dit « Pas ce soir, il y a les soldes. Il y a les soldes au BHV, donc pas ce soir. » Ah oui, alors le gars était là, dit « Si, on fait les bons ce soir. » Non, pas ce soir, il y a les soldes. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même une liberté. Le plaisir n'est pas obligatoire, c'est plus un plaisir. Un plaisir n'est pas imposé. Voilà, c'est le plaisir de l'autre qui t'impose. C'est l'enfer, ça. Hein. Il faut quand même pas mélanger l'enfer et le paradis. Je crois que là, ce que vous avez peut-être dit à notre ami, c'est que le plaisir a une place extrêmement importante, mais surtout ce que je veux dire, c'est qu'il correspond à une tendance naturelle et bonne chez l'être humain. Et les pères de l'Église et nos pères orthodoxes sont très sages aussi, ils n'ont jamais condamné le plaisir en soi. Par exemple, Saint Grégoire Palamas, que j'aime beaucoup, Saint Grégoire Palamas, je dis, mais le plaisir est une chose bonne, fait partie de l'aspiration naturelle de l'être humain. Simplement, s'il est détourné par l'égoïsme, s'il est détourné par la domination, etc., etc., et à ce moment-là, il devient un enfer, c'est vrai. Mais vous savez que le mal n'existe pas. Le mal n'existe pas. Le mal, c'est ce qu'on appelle mal, c'est toujours du bien déformé, du bien cassé, du bien non accompli, du faux bien, du non-bien. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que telle chose est mauvaise, ça ne veut rien dire. Rien n'est mauvais en soi. Vous voyez, ça, les gens qui ont pensé être chrétiens en disant, en diabolisant par exemple le plaisir, ça s'est beaucoup fait dans certains milieux chrétiens, parce qu'on a fait un peu n'importe quoi, il faut dire, en 2000 ans d'histoire chrétienne, il y a quand même pas mal de dégâts, hein, c'est-à-dire pas mal de sous-produits du christianisme, il faut quand même le dire. Mais bon, donc on a dit ça c'est bien, ça c'est mal, mais ça ne veut rien dire ça. Ça ne veut rien dire. Si cette chose est ressentie comme mal, comme mauvaise, c'est-à-dire qu'elle est une dégradation du bien, qu'elle est détournée de sa source originelle ou détournée de sa fin ultime. Bon, je pense que c'est le sens du plaisir sexuel dans le cadre du mariage, c'est le sens aussi de l'agape, c'est le sens du repas familial, c'est le sens même... Mais les gens qui m'avaient dit une fois, excusez-moi, je vais vous choquer, quelqu'un m'avait vu fumer. Ah, il a fumé, il est prêtre. C'est pas un prêtre, ça. Mais je le savais, je disais, c'est pas moi qui veux dire que je suis un bon prêtre, donc je suis d'accord avec toi. Et pourquoi est-ce que vous avez fumé ? Parce que j'étais au lycée, et au lycée, les élèves fumaient à l'époque. Non, maintenant, c'est interdit. Mais les élèves fumaient, enfin, ils sortaient dans la cour de récréation, ils fumaient. Et si je fumais, je participais avec cet élève-là. Et moi, je voulais parler avec cet élève-là. Tu vois ? Donc, il m'a proposé une cigarette, j'ai pris sa cigarette et on a discuté. C'est-à-dire je sais bien que s'il ne fallait pas faire ça, je ne me donne pas un exemple, mais je le prends quand même comme exemple. Parce que là, dans cette chose-là, qui n'est pas un plaisir extraordinaire, c'est une cigarette que je n'aime pas tellement, c'est des cigarettes blondes américaines, vraiment pas très bonnes. Enfin bon. Enfin, là, on a quand même partagé quelque chose. C'était la seule chose qu'on pouvait partager à ce moment-là. Alors, cela dit, il y a des limites. Parce que j'ai une amie droguée. Et elle voulait toujours que je me drogue avec elle. Et je dis ça, non, ma cocotte, là, c'est trop, c'est non. Donc, il y a un discernement. Bon, on ne peut pas tout partager, il y a des choses, tu veux... Parce que le drogué, il veut toujours t'entraîner dans son enfer, pour plus être seul dans son enfer. C'est très, très, très profond, hein. Le problème de l'autre, quand il est en enfer, c'est que pour lui, la seule façon de sortir de l'enfer, c'est de ne plus être tout seul. C'est ça, la vraie question. Mais moi, je savais aussi que c'était une illusion, parce que je n'avais absolument pas envie du tout, en plus. Et même par amour pour cette personne, je ne serais quand même pas drogué. Mais ce qui est, c'est qu'il y a des plaisirs quand même limités, qu'on partage et qui sont des moyens de communication, communion, d'approche. Mais ça peut être autre chose, ça peut être parler moto, ça peut être aller au cinéma avec quelqu'un, ça peut aller promener en forêt. On ne peut pas parler de Dieu tout le temps à tout le monde, c'est pas forcément en parlant de Dieu qu'on parle de Dieu, vous voyez. Il faut une amitié, et l'amitié, quelquefois, permet après ça de partager des choses plus profondes. Une amitié, ben c'est souvent, ah voilà, on va boire un coup, tiens, tu viens, on va boire un coup à côté. Un canon de, qu'est-ce que vous buvez ici, des vins spéciaux, on va voir tout ça. Mais c'est très important, ça. Si on ne boit pas ensemble, si on ne mange pas ensemble, si on n'a pas ce plaisir partagé, ce n'est pas facile de parler d'autre chose. Quelquefois, le plaisir permet la vérité. Quelquefois. Mais il faut se méfier. Dans le cadre de la vie conjugale, j'attire beaucoup votre attention là-dessus. Je pense que c'est une erreur fondamentale de penser que le plaisir va remplacer la vérité. Ça, c'est faux. Hein. Les couples qui me disent, mais si on faisait l'amour, ça irait mieux, on pourrait parler après. Je dis, ça, tu te trompes lourdement. Parle avant. Parle avant. Parce que si tu parles pas avant, tu vas faire l'amour, mais mensongèrement. Ça, c'est extrêmement attention. Le plaisir ne doit pas être un mensonge. Le plaisir n'est pas un cache-misère. Le plaisir n'est pas fait pour remplacer la transparence de la communion entre les personnes. Ça, c'est vraiment très important. Il y a quand même, je pense que dans le domaine de la vie tout à fait concrète, il y a une ascèse, il y a des canons, il y a des principes, si vous voulez, comme dans toute vie ascétique. Et la vie conjugale, notre vie de laïque, des gens qui vivent dans le monde, c'est une vie qui est gouvernée, accompagnée, transfigurée par une certaine expérience ascétique au quotidien. Je crois beaucoup.
On va faire maintenant la gaffe.
Voilà, du coup, on va vérifier.
Et si vous avez des questions, on va les partager ensemble. Vous pouvez parler avec le père Mahatman pendant la gaffe. Maintenant, on va faire le parastas et après la gaffe.
Ah oui,
merci, merci.
On a beaucoup trop parlé, non?
Je ne sais pas. Alors, une heure.
Couper. Une heure. Hein.
Là, je ne sais pas la réponse.
Regarde, c'est comme ça.
Est-ce que c'est...